Troisième méditation sur le livre d'Habacuc, le troisième chapitre, et je commencerai par un résumé très rapide des deux premiers chapitres pour ceux qui n'auraient pas entendu les méditations précédentes. Habacuc a vécu dans les années moins 600 avant Jésus-Christ, donc à une époque où la situation du royaume de Juda est grave. À l'intérieur du royaume, c'est l'idolâtrie, la violence, la corruption. À l'extérieur, c'est la menace d'invasion. Et deux versets pour rappeler ça, Habacuc qui s'adresse à Dieu et qui dit « On ne respecte plus la loi, les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Et la réponse de Dieu au chapitre 2, verset 6, « Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. » Une des choses qui m'a frappé en relisant ce livre d'Habacuc, c'est le nombre de fois où on est pris à contre-pied. Là, il y a une prière, on attend une réponse de Dieu, et la réponse est « ce sera pire qu'avant ». Alors, quels sont les sentiments qui habitent Habacuc? Eh bien, au début de son livre, il a un peu le sentiment que Dieu l'abandonne, en tout cas qu'il ne réagit pas. Et il s'adresse à Dieu en lui disant « appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ?» Il ne comprend pas. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à tous nos tourments? Il s'impatiente même. Jusque à quand appellerai-je à l'aide? Et il fait part de son indignation aussi. Je ne vois devant moi que ravage et violence, on ne respecte plus la loi. Alors que demande-t-il à Dieu? Et on peut résumer ça en quelques mots. Pourquoi le mal domine-t-il? Pourquoi ne réagis-tu pas? Pourquoi n'y mets-tu pas fin? Quand vas-tu intervenir? Et la réponse de Dieu, ce n'est pas celle qu'il attend. Je vais faire venir les Chaldéens. Mais en même temps, Dieu nous dit, je vais intervenir. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Car il vient sûrement, il ne tardera pas. Dieu dit en quelque sorte à Habacuc, sois patient et fais-moi confiance. Le juste vivra grâce à sa foi. Pas grâce à ce qu'il voit, mais grâce à sa foi. Et dans le chapitre 2, Dieu nous dit que le méchant sera jugé pour ses crimes. Pour sa cruauté, même s'il est intervenu à la demande de Dieu, il aura des comptes à rendre. Alors comment Habacuc réagit-il une fois de plus à ces révélations? Il ne comprend pas. Et on pourrait résumer sa pensée en disant « ce que tu m'annonces là, ça ne te ressemble pas. Tes yeux sont trop purs pour accepter de voir le mal, tu ne peux supporter la vue de l'affliction et tu dis que tu vas envoyer les Chaldéens, ce peuple barbare. » Alors il renouvelle ses questions. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence? Et là encore un contraste après ce temps de questionnement, cette prise de position. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. Je ne sais pas comment vous recevez ça, il y a des moments où on s'identifie beaucoup à Habacuc. Toutes les questions qu'il pose, etc. Puis il y a d'autres moments où on se dit, il arrive quand même à prendre des positions qui sont quelquefois surprenantes. Nous reprenons notre lecture au chapitre 3, verset 2. Et nous commencerons par le verset 2 simplement, qui est tout un programme déjà. « Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément. » Un verset, quatre points. Le premier, « j'ai entendu ». sais pas si vous êtes déjà demandé comment les prophètes entendaient Dieu. On n'a pas d'éclaircissement là-dessus. Mais en tout cas, ces quelques mots m'ont en quelque sorte rappelé à l'ordre en disant que je ne suis pas toujours suffisamment à l'écoute. On est facilement dans la demande. Et l'apôtre Jacques nous met en garde contre une écoute superficielle de la parole de Dieu. Jacques 1, au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. » J'ai entendu, dit Habacuc. C'est un peu un accusé de réception. J'ai bien entendu le message. Et il nous est si facile d'ouvrir la parole de Dieu, de lire des choses, de la refermer, et puis on est reparti dans la vie, ça y est. J'ai entendu, dit Habacuc. Deuxième point, je suis effrayé. Alors là, on le comprend. Dieu lui-même a décrit les Chaldéens comme un peuple terrible, cruel, redoutable, qui vole de victoire en victoire, qui détruit tout sur son passage et à qui rien ne résiste. Mais Dieu annonce également le jugement des Chaldéens. Et je me dis que la justice de Dieu, même si nous l'appelons, si nous l'attendons, eh bien elle peut faire peur. Et cela me rappelle l'importance des conséquences du péché, qui attire sur le pécheur la condamnation de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Souvenons-nous par exemple de l'homme riche qui, après sa mort, souffre cruellement, et on a ce dialogue qui nous est rapporté, où cet homme riche demande à Abraham d'adoucir ses souffrances, et la réponse d'Abraham est terrible. « Il y a entre toi et nous un abîme infranchissable, nous ne pouvons te venir en aide. » Le jugement de Dieu, nous avons cette chance, nous, d'avoir lu le Nouveau Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons cette certitude que nous sommes sauvés, mais le jugement de Dieu, lui, est terrible. Ça peut nous motiver pour annoncer la parole, savoir vers quoi les gens se dirigent. Ils vont vers le jugement. Et puis cette crainte de Dieu, elle peut être salutaire pour nous aussi. On n'aime pas vivre dans la crainte. Hein. Et pourtant, le psaume 111, verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre terrifié devant Dieu. C'est pas ça. Mais rappelez-vous ces images. Alors bien sûr, on me dira que c'est dans l'Ancien Testament, mais enfin, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Moïse s'approche de la montagne, on lui dit « ôte tes souliers, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. » Un autre verset dans Proverbe 14, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. » Un appui. Un appui, on en a besoin pour tenir en équilibre. « Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de Dieu peut nous éviter de prendre à la légère certains de ses commandements. Et après cela, encore un changement brutal et inattendu. Je suis effrayé, mais que ta volonté soit faite. Moi, je suis assez admiratif quand je lis des paroles pareilles. Habacuc ne demande pas à Dieu de changer ses projets, au moins de les retarder, de les modifier, de les adoucir. Il lui dit, comme Jésus le dira plus tard, que ta volonté soit faite. Sa foi en Dieu est plus forte que toutes les circonstances qui l'impressionnent et qui lui font peur. Il a demandé à Dieu d'intervenir, mais une fois que Dieu lui a répondu, eh bien il se satisfait de la réponse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a renoncé? C'est un fataliste? Je crois surtout qu'il fait confiance à Dieu, à son amour, à sa bonté, même si pour un temps, il doit traverser des épreuves. Et quand il est dit « le juste vivra par la foi », je me dis que les temps difficiles sont quelquefois des révélations. J'avais entendu dans une prédication quelqu'un prendre la comparaison suivante. À l'époque, ils habitaient Bordeaux, ils avaient assisté à la construction du pont d'Aquitaine. Et il disait, on a chargé le pont au maximum avec des lasers pour regarder comment le pont se déformait, etc. Ça n'a pas rendu le pont plus solide. Mais on l'a testé, on savait que c'était fiable. On dit quelquefois que les épreuves renforcent la foi, moi je crois qu'elles nous testent. Dieu, quelquefois, peut nous mettre à l'épreuve pour nous sonder. Alors, bien sûr, il est naturel dans la prière de commencer par, comme Habacuc, de demander à ce que l'épreuve passe, qu'on puisse en être délivré. Jésus lui-même l'a demandé. Et on peut se demander à quel moment je dois arrêter de demander quelque chose à Dieu. On a des versets qui nous encouragent à prier. Jacques 3, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, la prière, c'est efficace. La prière fervente, donc ça sous-entend dans la durée, la persévérance, avec ferveur. Le juste, c'est celui qui est déclaré juste par Dieu. Ce n'est pas celui qui est parfait, ce n'est pas notre perfection qui va attirer l'exaucement. Mais Habacuc nous montre aussi dans sa réaction que Dieu reste souverain. Comme il nous a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses desseins ne sont pas nos desseins. Et Proverbe 19, verset 21 dit « C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est pas notre volonté. » Apprendre que les Chaldéens vont envahir Juda, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Habacuc, ça ne le rassure pas. Mais la réponse de Dieu lui dit « C'est moi qui agis, je suis aux commandes, j'exerce mon jugement et ça ne va pas rendre les choses plus faciles à vivre. » Mais je me dis au moins les choses prennent un sens différent. Habacuc avait l'impression que le mal régnait. Eh bien Dieu lui dit dans sa réponse « J'ai les choses en main, même si tu ne comprends pas. Je sais ce que je fais, j'ai des raisons de punir Juda, on l'avait dit dans le message précédent. Les choses prennent un sens. Que ta volonté soit faite. Je me dis, voilà une réponse à la question que je nous posais, comment savoir terminer nos prières? Comment savoir à quel moment on arrête de prier pour un sujet? Il m'arrive souvent aussi d'ajouter « et aide-moi à l'accepter ». Et puis une quatrième pensée, « sois clément ». Dans la version que je vous ai lue, « dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément » dans la Louis II, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Vous pardonnerez l'expression un peu familière, mais c'est un peu gonflé de dire à Dieu, n'oublie pas. Un jour, dans une discussion, un pasteur me disait, est-ce qu'il vient à l'idée d'un enfant de dire à sa maman, n'oublie pas mon goûter? Non, il a confiance, il sait que tous les jours le goûter arrive. Et nous, nous demandons à Dieu, n'oublie pas. Alors nous savons que nous avons un Père bien disposé et qui ne nous en veut pas pour dire ça, mais ça montre qu'on a quand même toujours un petit peu cette attente. Il ne va pas oublier, enfin. Plutôt qu'une marque d'insolence, moi je comprends ça comme une marque de compassion pour les autres. Habacuc dit, bon, bien sûr, Dieu me parle à moi, mais tous autour de moi sont concernés et il appelle la clémence de Dieu sur eux. J'ai souvent eu l'occasion ces derniers temps d'entendre parler sur la parabole du serviteur impitoyable. J'ai prêché, on en a entendu parler à l'occasion d'un cœur pour Lyon, souvenons-nous tout le temps que nous sommes des pécheurs, pardonnés mais des pécheurs, et que ceux qui sont victimes du jugement sont aussi des pécheurs. Ne laissons pas notre soif de justice endurcir nos cœurs. Il y a des moments, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais on est bien content que le jugement s'exerce. Je ne sais pas, une anecdote, cette semaine, il y a eu un braquage dans un McDonald's, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les gangsters sont entrés, ils ont tiré un coup de fusil dans le plafond. Et ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait 11 gendarmes du GIGN, en civil, en train de prendre leur repas. Vous savez, ça doit être les notes de frais à l'administration « Mange chez McDo ». Alors évidemment, le GIGN, c'est des professionnels, ils ont attendu que tout le monde soit sorti. Ils se sont précipités dans leur voiture, ils ont pris leurs armes. Il y a un voleur qui s'est retourné avec son fusil, il n'a pas eu le temps de tirer. Boum. Et au fond, on jubile un peu, on se dit « Tiens, on est content que justice soit donnée. » Et on a honte, en fait, après, de se dire « Bon, heureusement que justice est donnée, mais de là à se réjouir de ce qui s'est passé pour les voleurs. » Voilà. Sois clément. Comme si Dieu allait en faire trop, mais enfin. Poursuivons notre lecture au verset 3. De Téman, Dieu arrive. Le Saint vient des montagnes du pays de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. On change de ton, ici on est dans un psaume, une prière chantée. À l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui, et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées, et les collines des temps anciens s'effondrent. Ses voix sont éternelles. J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant, et les abris de Madian trembler, épouvantés. Dieu arrive. C'est la nouvelle qu'Habacuc veut annoncer, car il a reçu de Dieu cette révélation, même s'il faut attendre que l'Éternel vienne, attends-le patiemment, car il viendra sûrement, il ne tardera pas. Le Saint vient des montagnes du pays de Paran. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la particularité du pays de Paran. C'est là que le peuple a tourné pendant 40 ans, avant d'entrer dans la terre promise. C'est une évocation donc du temps de l'Exode, qui rappelle que Dieu est intervenu par le passé pour sauver son peuple, et la parole nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a déjà fait, il peut le refaire. Sa majesté couvre le ciel. Dieu est souverain, rien ne lui échappe, rien n'est hors de sa portée. Sa louange remplit la terre. Là encore, je ne sais pas, quand on s'arrête, on dit Habacuc, là, il oublie tout ce qu'il a autour de lui. Là, il est déjà dans la pensée, dans l'avenir. Quel contraste entre la louange remplit la terre et ce qu'Habacuc voit. Habacuc entrevoit déjà ce que Dieu lui a montré et qui sera. Car il est écrit, Romains 14, verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ce sont des paroles qui font du bien à entendre quand on est dans des circonstances comme celle d'Habacuc. Et dans les versets qui suivent, Habacuc nous dresse le portrait d'un Dieu redoutable, tout puissant. Comment ne pas faire le parallèle avec la description des Chaldéens, mais c'est pire encore. À une différence près quand même, c'est que les Chaldéens font ça pour eux, pour s'enrichir. Dieu, lui, c'est la justice qu'il est en train de rendre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. Ces mots évoquent la puissance de l'orage que rien ne peut maîtriser. La peste meurtrière chemine devant lui, la fièvre brûlante marche à sa suite. Moi, ça me rappelle les premiers-nés égyptiens qui sont morts. Habacuc évoque ici un fléau auquel on ne peut pas échapper, qui avance inexorablement, n'épargnant rien sur son passage. Et lorsqu'il s'arrête, c'est pire, la terre tremble. Ça me fait penser, moi, à un guerrier, vous savez, on voit beaucoup de scènes comme ça au cinéma, des scènes de poursuite, et puis il y a un moment où le poursuivant s'arrête, il aligne, pour avoir encore plus de chances d'atteindre celui qu'il poursuit. Les montagnes antiques, les collines des anciens temps, ça symbolise tout ce qui, à l'échelle humaine, a toujours été, ce qui nous paraît inébranlable, inchangeable et qui maintenant s'effondre. Dieu peut tout changer, il reste maître de ce qu'il a créé. Lorsqu'Habacuc dit « J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant », il fait sienne la révélation de Dieu. Il le voit par la foi. Il parle au passé de quelque chose qu'il va voir. Comment ne pas voir la fragilité des hommes aussi? Les abris de Madian qui tremblaient, épouvantés, face à la puissance de Dieu. Continuons notre lecture. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux et pour que tu bondisses sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage aux fleuves. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent, l'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté de tes éclairs, des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre. Tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démoli de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. Les chevaux, les chars, l'arc mis à nu, c'est-à-dire prêt à combattre, Dieu est au moins aussi puissant que les Chaldéens. Lui qui a le pouvoir d'arrêter la course des astres, nous est-il dit. Là aussi, comment ne pas penser à l'obscurité qui s'est faite au moment où Jésus était sur la croix. Habacuc s'interroge aussi dans son psaume en disant « Mais pourquoi tout cela? Contre qui t'emportes-tu? Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. » Alors qu'Habacuc s'étonnait des silences de Dieu, eh bien nous voyons ici que Dieu lui-même est indigné par ce qu'il voit. Quand Habacuc disait « Mais pourquoi ne fais-tu rien ?», on voit bien que Dieu n'était pas indifférent. La violence de ce qui nous a été décrit la montre, l'indignation de Dieu. C'est l'injustice, l'abandon de la loi sainte qui ont déclenché la colère de Dieu. Et cette indignation de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple. Pourtant, Habacuc ne verra peut-être pas cette délivrance. Il sera témoin du début de l'accomplissement du plan de Dieu, l'invasion de Juda par les Chaldéens, mais il envisage déjà l'étape suivante. Le jugement des Chaldéens et la délivrance de son peuple. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. De fond en comble. La promesse de Dieu, c'est que justice sera pleinement rendue. Et cela suffit à Habacuc pour renouveler sa confiance en Dieu. C'est en se projetant dans le futur, finalement, non pas en regardant au présent, mais en regardant ce que Dieu a promis, à ce que Dieu fera, qu'Habacuc a retrouvé la force de déclarer sa foi et de surmonter les difficultés du temps présent. Au verset 16, « J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. » Encore un nouveau changement de ton, après l'exaltation de la louange, un peu le retour à la réalité. « Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent, je reste là tremblant. » Puisque je dois attendre tranquille, j'attendrai le jour de la détresse où l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Alors on dit ça y est, il retombe dans la déprime là. Vous avez noté, je dois attendre tranquille. Même dans les circonstances, on peut avoir la paix dans le cœur, quoi qu'on traverse. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisins dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos, les bœufs de leur étable. On a envie de dire stop, ça suffit, on a compris. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. À cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés. Nous voyons que la réponse de Dieu n'a pas fait disparaître les craintes d'Habacuc. Les mots employés sont très forts. Mes lèvres balbutient, on a l'impression qu'il est sonné, il cherche ses mots. Mes os se dissolvent. Il doit avoir les jambes qui tremblent, enfin. Il attendait une délivrance immédiate. Ce ne sera pas immédiat, ça arrivera, mais en son temps. Attendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus inquiétant, de plus angoissant, quand on n'a aucune prise sur les éléments à venir? Tout ce qui soutient la vie de l'homme la viendra à manquer. La terre produira plus de fruits, il nous est dit. Comment survivre? Personne ne saura. Personne n'a la réponse à ces questions. L'homme seul sans Dieu n'a plus aucun espoir de survie. En préparant cette méditation, je me suis rappelé le témoignage d'un pasteur algérien qui était passé dans notre église des Hauts-de-France un an après le printemps arabe. Et autant le printemps arabe a été un espoir phénoménal, le retour à la réalité a été brutal. Et cet homme déclarait « Je ne veux pas me laisser gouverner par la peur, les promesses de Dieu sont bien plus grandes que les circonstances. » Eh bien dans sa bouche, ça avait plus de poids que dans la mienne ce matin. Parce que lui, il savait ce que c'était, je veux dire, que l'hostilité, comment le gouvernement a tout bridé, bloqué à nouveau, et comment après avoir cru en la délivrance, ils ont marché dans les rues ensemble avec des musulmans, des chrétiens, enfin ils sont allés tous ensemble, et puis retour de bâton. Je ne veux pas me laisser gouverner par la peur, les promesses de Dieu sont plus grandes que les circonstances. Je veux me réjouir, dit Habacuc. Je veux. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour lui. C'est un effort, c'est un acte, une prise de position spirituelle, un acte de volonté. Et son appui, c'est l'assurance que Dieu sauve. Que c'est cela le plus important. C'est ça qui l'aide à passer au-delà des circonstances présentes. Et là, on peut s'interroger. Sur quoi repose ma foi? Est-ce que je crois que Dieu est un Dieu bon, juste, tout-puissant, éternel, à partir du moment où il répond à mes questions et où il m'évite les choses trop graves? Est-ce que c'est seulement dans les temps favorables que je me dis « oui, Dieu est bon et je peux m'appuyer sur lui » Ce livre d'Habacuc qui est bien difficile parce qu'on y décrit des choses vraiment dures et qu'on ne voudrait pas connaître, et en même temps, il nous interpelle quand il nous est dit « le juste vivra par la foi », où j'ai retrouvé aussi cette parole dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7, qui nous dit « celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur ». Alors, je ne voudrais pas donner l'impression de répondre au message de Colin la semaine dernière, ce n'est pas du tout thèse, antithèse, hein, je veux dire... C'est pas ça du tout, on en a parlé après, je veux dire, est-ce que interroger Dieu, c'est douter de la puissance de Dieu? Je crois que ce qu'Habacuc nous dit bien là, c'est on peut poser des questions à Dieu. De là à remettre en cause sa divinité, sa toute-puissance, ça c'est autre chose. Est-ce que nous pouvons faire nôtre cette parole qu'on trouve aussi dans Hébreux 10, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est dans les temps difficiles que ces paroles nous interpelle vraiment. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. C'est Habacuc qui le dit. Et je dois reconnaître qu'il m'est bien difficile de remettre tout entre les mains de Dieu et que, bien souvent, j'aimerais que Dieu agisse plutôt dans un sens que dans un autre. Mais lorsque nous voyons que les choses nous dépassent et qu'elles ne vont pas dans le sens que nous voulons, je crois que nous pouvons nous inspirer de l'exemple d'Habacuc et de dire « mais non pas ma volonté, mais la tienne ». Alors il est temps de conclure. À la relecture, je ne suis pas très content de mon titre, mais oui, on sait qu'il est permis de parler à Dieu, de s'adresser directement à lui. Mais à la réflexion, ce que je me dis, c'est que ce dialogue entre Dieu et Habacuc a aidé Habacuc à donner un sens différent aux choses. La réponse de Dieu n'a pas enlevé les craintes, elle n'a pas enlevé les difficultés, mais elle a donné un sens, autre chose, une priorité. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est ni sourd ni dépassé par les événements. On le sait, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Mais qu'est-ce que ça peut paraître long quelquefois d'attendre ? Dieu est indigné par le mal. Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de vous pour ne plus vous entendre. Ce n'est pas à vous, hein, forcément, que ça s'adresse ça. C'est Ésaïe qui dit ça à Judas 100 ans avant Habacuc. Dieu est indigné par le mal. Quand on dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, sachons bien que nous indignons Dieu lorsque nous péchons. La volonté que justice soit faite ne doit pas endurcir nos cœurs. N'oublions pas la prière d'Habacuc. Exerce ton jugement, mais sois présent. Sois clément, pardon. Une foi solide, ça ne met pas à l'abri des épreuves, mais ça aide à les traverser. Si je dis ça, c'est parce que quelquefois, dans des milieux chrétiens, on entend que si on a des épreuves, c'est forcément qu'on a fait quelque chose. Ben, ce n'est pas dit dans l'Écriture qu'Habacuc s'était mal comporté, il est dit que Judas s'était mal comporté 60 ou 70 ans plus tôt, et c'est à ce moment-là que le jugement de Dieu s'exerce. La foi, ça n'épargne pas les épreuves. Ce n'est pas parce qu'on a des épreuves qu'on est un mauvais croyant, qu'on n'a pas assez de foi. On est tous des croyants insuffisants. Mais le peu de foi que nous avons peut nous aider à regarder à Dieu et non pas au présent. Et ce qui a aidé Dieu à accepter les Habacuc, pardon, à accepter les épreuves, c'est sa vision du plan final de Dieu. C'est Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Ça m'a beaucoup interpellé ce verset il y a quelques années, parce que la foi, ça change déjà beaucoup de choses dans notre vie présente. Eh bien, Paul nous dit, c'est rien du tout à côté de ce que ça change pour l'éternité. Notre espérance, elle va bien au-delà des circonstances présentes. Dieu ne nous a jamais promis de nous épargner les épreuves, mais il nous a promis de vivre l'éternité dans sa présence bienveillante. Et je vous propose, pour conclure ce message, d'entonner un cantique. C'est le 133 dans J'aime l'Éternel. Ce chant, vous l'avez probablement chanté des dizaines de fois. On y dit notamment, « Quand tout semble noir et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. » Amen.